Le journal vous est présenté par Diane Berger.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites demain, alors que l'exécutif n'arrive toujours pas à rassurer les partenaires sociaux. Les explications dans ce journal d'Anne-Laure Jumet et le spécialiste de la communication politique Philippe Moreau-Chevrolet sera notre invité. Après 18 ans passés sur place, 1000 milliards de dollars dépensés, l'intervention américaine en Afghanistan a-t-elle seulement servi à quelque chose? Grégory Phillips reviendra sur les dernières révélations du Washington Post. Et la Russie bannie de toute compétition sportive pendant 4 ans, une sanction inédite prise par l'Agence mondiale antidopage. Ce sera demain le 6e jour de grève dans les transports et la 2e grande journée de mobilisation interprofessionnelle après celle de jeudi dernier. L'opposition à la réforme des retraites s'inscrit dans la durée alors qu'Édouard Philippe doit présenter le texte en détail demain. Jean-Paul Delevoye recevait ce soir les représentants syndicaux et patronaux, une réunion pour conclure la séquence de concertation lancée en octobre. Mais Anne-Laure Jumet, elle a laissé les partenaires sociaux sur leur faim.
Tout ça pour ça, voilà ce qu'on pouvait entendre tout à l'heure dans la bouche de certains représentants syndicaux comme Michel Bogas de Force Ouvrière.
Rien de neuf à l'horizon. Nous avons répété notre opposition à cette réforme puisque comme il n'y a rien de neuf, ça veut dire que la réforme systémique, universelle, plutôt unique par point va se faire. Nous y sommes opposés et donc nous continuerons bien évidemment à appeler à la manifestation et à la grève, ce que nous ferons demain.
Force Ouvrière qui a appelé à la mobilisation aux côtés de la CGT, Solidaire, la FSU et l'UNEF. L'UNSA, elle, n'a pas rejoint l'intersyndicale, mais son secrétaire général, Laurent Escure, s'impatiente.
Nous, on réfléchira si ce n'est pas à la hauteur. On a des secteurs qui sont déjà mobilisés, qui continueront, et on réfléchira à avoir une position plus globale de l'UNSA, si jamais vraiment il y a des lignes rouges qui sont franchies, ou qu'on n'a pas du tout de certitude ou de garantie permettant d'apaiser le climat social.
Face aux inquiétudes, Jean-Paul Delevoye a voulu rassurer, notamment sur un sujet qui préoccupe les Français, la valeur du point dans le futur régime.
Il y a aussi une demande forte de garantie de la valeur du point après l'entrée en vigueur du nouveau système. Et beaucoup souhaitent que cela prenne la forme de l'inscription dans la loi du principe que cette valeur du point ne pourra pas baisser.
Et c'est ce qui devrait être proposé après-demain par le Premier ministre, un sujet parmi d'autres pour tenter de sortir de la crise, mais qui ne devrait pas suffire à entamer la détermination des syndicats opposés à la réforme. Ils envisagent déjà une 3e journée de grève ce jeudi.
Anne-Laure Jumet. Face au mouvement, l'exécutif resserre les rangs. Hier soir, Emmanuel Macron réunissait les principaux ministres chargés de la réforme. Une autre rencontre doit avoir lieu demain soir avec ces mêmes ministres et les dirigeants de la majorité au Parlement. Des rencontres pour reprendre la main ou du moins essayer. Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po, président de MCGB Conseil, agence spécialisée dans la communication des dirigeants. Comment l'exécutif gère-t-il cette séquence délicate de la réforme des retraites?
On peut dire que l'exécutif a perdu la bataille de la communication, la bataille de l'opinion autour de la réforme des retraites pour deux raisons. D'abord parce que personne ne comprend vraiment le calendrier qui a été choisi. La crise des gilets jaunes date d'il y a tout juste un an. Le pays sort d'une épreuve sociale particulièrement dure. Pourquoi rallumer les feux aujourd'hui, maintenant? C'est important notamment pour tout le secteur du commerce, pour tout le secteur du spectacle vivant, des restaurants, etc. Une bonne partie de l'économie française a été lourdement impactée l'année dernière. Et le deuxième point, c'est qu'on n'a pas du tout compris la réforme elle-même. Personne n'a été capable de vraiment l'expliquer, ni le Premier ministre, ni Jean-Paul Delevoye, ni les ministres, ou plutôt chacun a tenté de l'expliquer de son côté, parfois en proposant des exonérations pour ses propres troupes, les policiers, les enseignants, mais on n'a pas vraiment compris quelle était la vision d'ensemble. Du coup, comme le disait Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. L'opinion s'est dit, on ne comprend pas cette réforme, elle nous est vaguement hostile, donc on va la rejeter en bloc, et ça a produit une manifestation monstre.
Et justement, d'après un sondage IFOP publié hier pour le JDD, un peu plus de la moitié des Français soutiennent ou en tout cas expriment de la sympathie envers la mobilisation des grévistes. Le chiffre est même en hausse de 6 points par rapport à la semaine dernière. Est-ce que l'exécutif peut encore renverser cette machine?
Ça va être véritablement très difficile. On se dit qu'on est reparti de nouveau pour une espèce de grève par procuration, c'est-à-dire une grosse partie des Français se disant quelque part, c'est bien que d'autres le fassent à notre place, aillent faire grève, aillent manifester pour nous. Donc on va les soutenir en étant favorable, même si nous-mêmes, on ne doit pas nécessairement descendre dans la rue. Ce phénomène de grève par procuration est vraiment très fort. pour l'exécutif, c'est très difficile à renverser parce que, après tout ce qui a été dit, parfois de façon divergente, comment rétablir de la clarté sur ses intentions et sur la manière de procéder? Sur un sujet aussi complexe et aussi délicat, c'est quasiment mission impossible pour le Premier ministre.
Et justement, le Premier ministre doit présenter le détail de sa réforme mercredi. Qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Ce qu'on peut attendre de la déclaration du Premier ministre, c'est d'abord qu'elle soit beaucoup poussée par toute la machine en marche pour essayer d'en faire un événement politique et pour essayer de braquer toute l'attention dessus. De ce point de vue-là, ça devrait marcher, ça devrait fonctionner. On devrait tous regarder mercredi ou tous essayer d'écouter ce que dit le Premier ministre. Après, il faut que le contenu du message en lui-même soit clair et limpide, et c'est là où il y a un problème depuis le début. Il est vraisemblable que dans un deuxième temps, c'est le président lui-même qui devra monter au créneau pour expliquer la réforme si la situation perdure.
Et au cours des derniers jours, plusieurs ministres ont pris à partie spécifiquement le syndicat, la CGT. Pour Elisabeth Borne, ce n'est pas avec ce syndicat qu'on trouvera le chemin de la sortie du conflit. Bruno Le Maire dénonce une organisation qui, je cite, « défend plus ses troupes que les Français ». Cette stratégie d'attaque spécifiquement contre un syndicat peut-elle payer ?
Alors la stratégie toujours de l'exécutif en période de tension sociale, c'est d'essayer de diviser le front qu'il a en face de lui. Attaquer un syndicat parmi d'autres, ça permet de faire ça, de fissurer un petit peu les adversaires et d'essayer de les diviser pour essayer de récupérer les éléments les plus modérés de son côté. Le problème qu'a l'exécutif en l'occurrence, c'est qu'il n'a jamais vraiment composé avec les syndicats. Donc quand il en attaque un quelque part, ça tombe un peu à plat parce que tout simplement, il n'a pas vraiment ménagé d'alliés à côté de lui. Même la CFDT a été assez malmenée dans ces discussions. Disons que ce sont des calculs qui peuvent marcher, mais ça vient un peu tard. Et il aurait mieux valu, en fait, essayer d'introduire cette réforme, de la présenter aux différentes parties prenantes très en amont, essayer aussi de faire des compromis avant d'annoncer la réforme et puis être très clair sur ses intentions et sur ce qu'elle était. Peut-être que la sagesse recommanderait de différer cette réforme et d'attendre des temps un peu plus cléments, un peu plus sereins.
Et si le bras de fer entre l'exécutif et les syndicats continuait de se durcir, quelles seraient les conséquences pour l'image de l'exécutif?
Si le combat se durcissait du côté des syndicats et que les Français continuaient à soutenir le mouvement ou à amplifier leur soutien, comme on le voit ces derniers jours, ce serait véritablement difficile pour l'exécutif parce qu'il n'a pas vraiment de réserve. Il est convalescent de la crise avec les Gilets jaunes. Le gouvernement a pris beaucoup de coups durant cette période. Il a fallu que le président s'implique énormément à titre personnel à travers le grand débat, ce qu'il a très bien fait. Mais le président ne peut pas à chaque fois risquer son image dans des duels avec l'opinion, finalement. Il peut mettre en cause aussi, quelque part, son crédit et son autorité. Donc c'est véritablement compliqué. Ce qui pourrait être une sortie de crise, c'est soit un abandon de la réforme, soit une façon de noyer le poisson en disant qu'on va en rediscuter, qu'on va faire des commissions, enfin une façon de gagner du temps. Mais le problème, c'est que le seul qui va pouvoir dénouer tout ça, ce sera comme la dernière fois le président. Donc soit il arrive à refaire un grand débat, à recréer une logique de débat national autour de lui comme il l'avait fait, soit il va falloir inventer autre chose. C'est là où finalement se situe peut-être la sortie de crise. Hein. C'est Emmanuel Macron lui-même qui va trouver la formule, la façon de faire qui va permettre au pays de trouver un nouveau pied.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet. Je le rappelle, vous êtes professeur de communication politique à Sciences Po. Et demain, trafic perturbé toujours. Environ un TGV sur 5 circulera. La quasi-totalité du métro parisien sera toujours fermée et des perturbations sont également attendues dans les écoles. C'est une autre mobilisation qui dure et un autre dossier épineux pour le gouvernement, la crise de l'hôpital public. Près de 9 mois après le début de la grève inédite des urgences, les internes en médecine sont maintenant appelés à rejoindre le mouvement à partir de demain. Leur principal syndicat appelle à la grève illimitée pour dénoncer la dégradation des soins et réclamer une amélioration de leur statut. 3 mois de prison avec sursis pour Jean-Luc Mélenchon, condamné pour rébellion et provocation aujourd'hui. Les faits qui lui sont reprochés remontent à octobre 2018. La police perquisitionne le siège de la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon et d'autres responsables du mouvement s'interposent. La scène filmée dégénère. Devant les forces de l'ordre, le chef du parti hurle « La République, c'est moi ». Et encore aujourd'hui, Pierre Neveu, il dénonce un jugement politique, une posture qui ne lui permet toujours pas de se relever.
On le sait, Jean-Luc Mélenchon est un tribun qui sait manier le verbe. Son score à la présidentielle en atteste. Sur son nom, le chef de file de la France insoumise a rassemblé plus de 7 millions d'électeurs. Mais Jean-Luc Mélenchon est d'abord un révolté, un révolutionnaire en colère qui s'emporte et s'oppose avec virulence lors de la perquisition d'octobre 2018. Et c'est à ce moment-là qu'on le voit décrocher dans les sondages. Moins 7, moins 8, moins 14 points, qu'il s'agisse d'opinions favorables, de bonnes opinions et autres codes de soutien et sympathie. Pire que tout, un sondage Odoxa réalisé en septembre dernier est sans appel. Pour plus de 7 Français sur 10, Jean-Luc Mélenchon est agressif, pas sympathique et pas honnête. Parler fort pour marquer les consciences, c'est le marqueur de Jean-Luc Mélenchon, mais cette attitude est devenue contre-productive, constate Frédéric Michaud, directeur des études chez Opinionway.
L'un des problèmes de Jean-Luc Mélenchon, c'est le problème de son positionnement politique avec des variations depuis 2017 dans la ligne politique qui ont suivi, variations qui ont créé de l'incertitude, des remous au sein de la France insoumise et puis qui créent de l'incertitude, de la confusion aussi dans son électorat et dans l'opinion publique.
Preuve s'il en est que le message ne passe plus, le score de la France insoumise aux européennes, 6,3% des suffrages, 5 millions de voix perdu en 2 ans. Au lendemain de ce scrutin, Clémentine Autain dénonce, sans le nommer, Jean-Luc Mélenchon, sa stratégie populiste et de clash permanent. « Nous gagnons quand nous sommes du côté de l'espérance », dit la députée La France Insoumise, « pas quand nous sommes du côté du ressentiment ou de la haine ».
Et 4 autres responsables du mouvement ont également été condamnés à des amendes allant de 2 à 7 000 euros. Le député Alexis Corbière a lui été relaxé. C'était une réponse aux attentats du 11 septembre 2001. Les troupes américaines sont arrivées sur le sol afghan il y a 18 ans. Une intervention militaire difficile, coûteuse et qui ne mène qu'à l'échec. C'est du moins la thèse soutenue par le Washington Post aujourd'hui. Le journal publie une série de révélations qui remettent en cause la pertinence même de cette présence américaine sur place. Intitulée The Afghanistan Papers, l'enquête se fonde sur des documents confidentiels de l'administration qui a voulu cacher ses propres doutes, les explications depuis Washington de Grégory Phillips.
En 2015, le général 3 étoiles Douglas Lutt, qui a servi sous administration Bush et Obama, fait ce constat quand il est interrogé par l'organisme fédéral en charge d'enquêter sur le coût et les résultats de la guerre en Afghanistan. Qu'essayons-nous de faire là-bas, dit ce haut gradé, 13 ans après le début de l'intervention américaine. Nos concitoyens ne connaissent pas l'ampleur des dysfonctionnements, près de 2400 morts américains. Tout ceci est vain. Cette déposition fait partie des 2000 pages de documents que le Washington Post a pu obtenir. Au total, 428 responsables militaires ou civils décrivent le bourbier qu'est devenu l'Afghanistan. Depuis 2001, plus de 775 000 soldats US y ont été déployés. Cela a coûté aux contribuables américains près de 1000 milliards de dollars, sans compter les frais de la CIA, et ceux engendrés pour les soins médicaux des 20 000 blessés. Surtout, ces documents démontrent que 3 présidents, W. Bush, Obama et Trump ont sciemment menti au grand public, parlant de succès. Alors que cette guerre est un désastre, l'état-major et la Maison-Blanche ont même truqué des statistiques pour faire croire à l'obtention de bons résultats. Le travail du Washington Post, qui en justice a réussi à faire déclassifier certains de ces documents, rappelle les Pentagon Papers, publiés au début des années 70, mais à l'époque par le New York Times. La publication de ces documents intervient au moment où l'administration Trump envisage de retirer 13 000 soldats américain d'Afghanistan et vient de reprendre les négociations avec les talibans.
C'est la première fois qu'ils se rencontrent. Vladimir Poutine et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sont ce soir à l'Elysée, en présence également d'Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel. Le but de ce sommet, relancer le processus de paix en Ukraine, gelé depuis maintenant 3 ans. Et Moscou dénonce ce qu'elle nomme une hystérie anti-russe après la décision de l'Agence mondiale antidopage. Jérémy Lanche, elle bannit le pays pour 4 ans des compétitions sportives internationales, Jeux Olympiques de 2020 inclus.
C'est la sanction la plus lourde jamais infligée par l'Agence mondiale antidopage. Elle est à la hauteur de la fraude commise par la Russie. En manipulant les données de ses sportifs contrôlés pour mieux les couvrir, Moscou s'est définitivement mise à dos les instances du sport international. Jonathan Taylor est le président du comité d'examen de la conformité de l'Agence mondiale antidopage.
C'est une sanction complète pour 4 ans. La Russie ne pourra pas accueillir des compétitions internationales ni demander à en accueillir de nouvelles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de compétition en Russie pendant plus de 4 ans. En ce qui concerne la participation, la sanction est claire. Il n'y aura pas de drapeau russe dans tous les championnats du monde et tous les sportifs qui y participeront ne pourront pas le faire sous les couleurs de la Russie.
145 athlètes russes particulièrement suspects aux yeux de l'agence ne pourront participer à rien, même avec un maillot neutre. Leurs noms n'ont pas été dévoilés. La Russie peut encore faire appel devant le tribunal arbitral du sport, mais elle échappe en fait au pire. Les championnats européens ne sont pas concernés par les sanctions. La Russie sera donc bien présente à l'Euro de football 2020.
Et les températures seront fraîches. Demain matin, elles iront de 0 degré à Aurillac jusqu'à 15 degrés aux alentours de Calvi, en Corse. Il fera 3 degrés à Lille, 4 à Paris et Mont-de-Marsan, 5 à Rouen et 10 à Perpignan. C'est la fin de ce journal, une édition réalisée avec Annie Brault, Louis Bardinet à la technique.